il y a deux personnes qui s'approchent d'elle et qui lui tendent un petit livre bleu comme celui-ci. Et elle leur dit, non mais vous m'avez bien regardé. Avec la tête que j'ai, vous croyez vraiment que je vais vous acheter votre bouquin? Et un homme répond avec beaucoup d'empathie, mademoiselle, on ne vous le vend pas, c'est un cadeau, c'est pour vous. Et malgré sa colère, malgré la situation, elle accepte le cadeau. Elle le prend, le met dans son sac, elle commence à le lire, et ça l'énerve ce livre. Même à un moment donné, elle le jette comme ça, elle le reprendra après. Hein. Elle dit, mais c'est pas possible, si c'était vrai, ça se saurait. Et puis Myriam est vraiment mal partie. Et c'est le cercle de la drogue qui l'entraîne de plus en plus profondément. 22, 24 et à 25 ans, elle en est aux drogues les plus dures. Elle en est au brouillard le plus complet. Elle en est au cerveau grillé. Elle en est dans le désespoir. Et elle se retourne vers les seules personnes qui lui viennent à l'esprit, ses parents. Elle va voir sa maman. Elle lui dit, « Maman, fais quelque chose pour moi. Fais-moi enfermer une cure, mais je veux m'en sortir. J'en peux plus. » Et sa mère lui propose alors subitement, « Écoute, viens avec moi d'abord, on va aller voir un pasteur. » Et ça, ça la surprend beaucoup parce que ce n'était pas l'habitude de la maison. Et elle accepte. Et voici qu'elle est devant un pasteur qui commence à lui parler de Dieu, lui parler du Seigneur. Et il parle, mais elle ne comprend rien. Même mieux, elle se moque de lui. Et le pasteur s'en aperçoit. Il prend quelques secondes et il réfléchit. Il dit, « Écoutez, mademoiselle, est-ce que vous voulez que je prie pour vous ?» Elle dit, « Oui, allez-y, priez. » Et il commence à prier. Et là, dans son brouillard, elle se souvient du petit livre qu'elle a lu. Et elle fait cette prière à Dieu. C'est maintenant. Simple prière, c'est maintenant. Dans le sens que si toi, Dieu de ce livre, tu dois faire quelque chose, c'est maintenant. Et le Seigneur répond à cette simple prière. Elle sent sur elle descendre une chaleur, une visitation. Vous connaissez l'Esprit de Dieu ? Quand il descend sur une âme. Et tout le reste devient terne, tout le reste est abandonné. Elle va commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Ça a été maintenant pour Myriam. Je présentais les Gédéons en 2018, en juillet 2018, sur Montpellier. Et comme ici, après avoir témoigné de ce que Dieu fait à travers sa parole, pas de ce que font les Gédéons, hein, parce qu'ils y sont pour pas grand-chose du compte fait. C'est l'Esprit de Dieu qui va convaincre. Amen. C'est la parole de Dieu qui est un marteau qui brise le roc, un feu, comme il est écrit dans Jérémie 23. Et à la fin, je me tenais ici, sur le devant, et les gens venaient me voir s'ils avaient besoin de renseignements. Et à un moment donné, à la fin, la dernière personne qui s'est approchée, c'est une personne qui devait avoir une quarantaine d'années, qui pleurait. Elle s'est approchée de moi, elle m'a dit, « Je m'appelle Myriam, et je voudrais vous remercier. » Voici ma vie. Et elle me donne son témoignage comme ça. Et elle me dit, aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants, je suis dans cette église, membre de cette église. Et je n'avais jamais compris, je n'avais jamais su qui était la personne ou les personnes qui m'avaient donné ce Nouveau Testament. Aujourd'hui, je sais, ce sont des Gédéons qui sont venus. Et je voudrais les remercier. Parce que vraiment, ça a été le salut pour ma vie. Elle a donné ce Nouveau Testament à quelqu'un. Il est encore en service. Service commandé de Sa Majesté. Amen. Et peut-être portera-t-il encore un fruit. Peut-être sauvera-t-il encore une âme de la mort. Merci Seigneur. Alléluia. Je tiens particulièrement à vous remercier. Parce que depuis 5 ans, je suis moins présent dans l'Église. Nous sommes moins présents avec mon épouse dans l'Église. Car nous avons été appelés à nous occuper de cette œuvre des Gédéons sur toute la France et même dans les pays d'outre-mer, puisque nous revenons d'un voyage de 18 jours sur les Antilles et la Guyane, visiter Saint-Martin, Guadeloupe, les deux groupes, la Martinique, la Guyane, Cayenne, Kourou. Vous voyez, c'est des endroits où je n'étais jamais allé, ou presque, si ce n'est en vacances. Et à chaque fois que je pars, je sais que mon église prie pour moi. mon pasteur prie pour moi. Et quand on m'a demandé de prêcher ce matin, je me suis dit, eh bien, au bout de 5 ans, il est temps que je fasse un compte-rendu missionnaire à mon église, parce qu'elle a prié pour moi, elle a prié pour Marianne, et nous avons senti le soutien de mon église, et je voudrais vous en remercier de tout mon cœur. Remercier le pasteur de me laisser l'occasion de parler de cette association, de parler de ce que Dieu fait à travers l'œuvre des Gédéons, à travers la distribution de sa parole. Il n'y a qu'un seul but pour les Gédéons, ce n'est pas de distribuer, c'est d'amener des âmes à Christ. C'est le seul but. Alors, on a une méthode, un moyen, c'est qu'on place toute notre confiance dans la parole de Dieu. Et tout à l'heure, dans ma deuxième partie, à la fin de ma présentation, je ferai un point sur cette belle parole de Dieu. Et j'en parlerai. Nous ouvrirons la Bible et nous aurons un message centré sur la volonté de celui qui nous a envoyés. Je voudrais remercier les Gédéons. Je vais le présenter rapidement parce qu'il y a plein de Gédéons ici. Amen. Il y a plein d'épouses de Gédéon qu'on appelle les auxiliaires. J'aimerais qu'ils se lèvent là. Allez, tous ceux qui sont encore Gédéons, épouses de Gédéon, qui se lèvent. Non, n'ayez pas honte là. Ben, voilà. Katia, tu es toujours dans l'œuvre. Voilà. Et Bruno, il est où Bruno? Je ne le vois pas. On l'a appelé? Ah, d'accord. OK. Muriel, tu peux te lever aussi parce qu'on compte sur toi. On compte sur toi. Je crois que tu es un élément aussi important. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont pas là encore. Hein, que Dieu les bénisse là où ils sont. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Alors, avec tant de représentants, on pourrait croire que tout le monde connaît les Gédéons. Mais je sais que tout le monde ne connaît pas les Gédéons. Alors, je vais vous présenter pendant quelques instants. J'ai tout mon temps aujourd'hui. Je peux le faire. Vous expliquer qui sont les Gédéons. Les Gédéons, ben, ce sont des membres des églises. Ce sont surtout des gens qui ont des responsabilités professionnelles, qui sont des gens qui ont l'habitude de diriger, qui ont des responsabilités, qui sont cadres, qui sont médecins, qui sont professeurs. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on sélectionne ou on choisit cela ? Ben, parce que c'est l'objectif des Gédéons de mettre ces personnes de l'Église, de les réunir et de les mettre ensemble afin qu'ils travaillent pour le Seigneur à la diffusion de la parole de Dieu. C'est la cible des Gédéons. C'est de permettre que ces gens puissent prendre du temps ensemble, permettre que ces gens puissent s'encourager ensemble. Ils rencontrent souvent les mêmes difficultés. La façon de se tenir droit dans leur travail professionnel, avec les tentations ou même les épreuves qu'on leur demande. Souvent, dans notre vie professionnelle, on nous demande de mentir, mais ce n'est pas possible lorsqu'on est chrétien. Enfin, on a des difficultés de ce genre-là et on s'encourage mutuellement. Et puis surtout, on se forme, on s'encourage à témoigner. Et puis, ce sont des membres des églises. Il faut être membre d'une église de bon renom pour être Gédéon. Pourquoi ? Parce que les Gédéons travaillent en collaboration avec les églises. C'est-à-dire que les Gédéons ne font aucun enseignement. On se l'interdit. On travaille avec différentes églises, différentes dénominations qui sont pentecôtistes, non pentecôtistes, qui croient dans le nom puissant de Jésus. Et c'est pour cela que l'on refuse de faire tout enseignement. L'enseignement, c'est dans l'Église. Celui qui va se prendre en charge les nouveaux qui sont touchés par la parole, c'est le pasteur, c'est l'Église, c'est le berger, c'est pas les Gédéons. Là, on a vraiment fait une séparation qui est très, très, très saine, très concrète, et on sait exactement où on va et ce qu'on fait. Dans 200 pays dans le monde, les Gédéons distribuent et placent la parole de Dieu à un rythme très élevé. Bastien nous disait hier qu'à chaque battement de votre cœur, il y a 3 Nouveaux Testaments qui sont offerts au nom de Jésus. Ouais. Et depuis la création, depuis 1908, était créé en 1899, depuis 1908, nous avons 2,5 milliards d'exemplaires de la parole de Dieu qui ont été offerts dans le monde. Voilà. Et ça, ça a été en progression immense. Mais l'essentiel, c'est que cette parole porte du fruit. Et souvent, nous travaillons, et quelquefois, nous avons le résultat de notre travail. Et quelle joie! Et quelle joie! La dernière fois, j'étais dans la région parisienne, enfin il y a quelques années, je présentais les Gédéons dans une église, et puis il y avait une jeune fille qui participait au chant, qui était dans l'équipe de louanges, qui est venue me voir. Elle s'appelle Tabara, et elle me dit « Je suis d'origine musulmane ». Et pendant mes études à Paris, j'ai rencontré une chrétienne qui m'a témoigné, mais j'étais très sceptique, très attaché à ma religion. Et alors que j'étais en discussion avec elle, eh bien, un jour je me suis rendu à Paris, dans une bibliothèque dans le 16e, un endroit très chic, n'est-ce pas ? Elle allait travailler là-bas, et sur le chemin, elle a rencontré un homme qui lui a remis un exemplaire de la parole de Dieu. Et elle a été bouleversée, parce que alors qu'on lui parlait de Dieu, que cet ami lui parlait de Dieu, eh bien, un homme, un inconnu, lui offrait l'évangile. Elle a lu l'évangile, elle s'est convertie, elle est membre d'une église évangélique aujourd'hui, et elle offre son talent, sa voix, pour l'œuvre de Dieu. Et je me suis réjoui avec elle de voir que l'évangile donne encore des résultats, qu'il nous donne encore des grandes, grandes bénédictions. Les Gédéons donc vont distribuer que dans des endroits où l'Église a de la difficulté à aller. Ils prennent le chemin le moins facile. Souvent, les Églises vont sur les marchés, ils vont dans les boîtes aux lettres, etc. Les Gédéons ne font pas ça. Les Gédéons vont toucher des catégories bien précises. Il y a bien sûr les étudiants, les élèves. On a fait une distribution il n'y a pas longtemps, c'était en septembre, sur Aix-en-Provence, sur le campus d'Aix-en-Provence, devant la fac de lettres. On était trois, ce jour-là, distribués, et on en a distribué 10, 20, 100, 200, 300, 400, 500. Et on est allé, je crois, jusqu'à 900, 1000 Nouveaux Testaments, là, en quelques heures. On s'était levé très tôt pour le faire. Et vers 10h, 10h30, alors que déjà on avait bien entamé notre distribution, on se tenait tout près de l'entrée du campus et on distribuait aux élèves, enfin aux étudiants qui sont majeurs, qui ont la capacité d'accepter, de refuser et de le garder, juste avant qu'ils rentrent. Il y a une femme qui est sortie en furie, qui dit « Ouais, vous n'avez pas le droit, c'est interdit, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est un scandale, c'est toujours scandaleux d'offrir la parole de Dieu. » Attendez-vous à des réactions lorsque vous offrez la parole de Dieu. Pour des gens, c'est scandaleux. Je ne sais pas où est le scandale, mais c'est scandale pour eux. Alors, j'ai commencé un petit peu à me... Elle a commencé un petit peu à m'échauffer. Et je lui ai dit, mais madame, on a le droit de distribuer la parole de Dieu aux étudiants. Non, vous n'avez pas le droit, je suis directrice de... Alors, je commence à je ne sais pas de quoi elle était directrice, mais apparemment, ça ne devait pas être un grand, grand, grand service. Parce que moi, je lui ai dit, écoutez, madame, moi, je suis responsable national des Gédéons en France. Ah ! Et je vous dis qu'on a le droit de donner la parole de Dieu. Et à un moment donné, elle a commencé à arracher des mains aux étudiants la Bible. Mes étudiants ne se laissaient pas faire. Je dis, ah, là, madame, par contre, ce que vous faites, c'est interdit. C'est vous qui n'avez pas le droit de le faire. Oui, parce que là... Alors je lui dis, mais expliquez-moi, madame, je ne comprends pas où est le problème. Nous sommes devant une faculté de lettres et nous donnons un livre. Où est le problème ? Oui, mais ce n'est pas un livre. Ah, je lui dis, vous savez quand même, madame, je vais vous l'apprendre, que c'est le livre le plus lu, le plus vendu au monde. Il n'y a pas d'équivalent de la parole de Dieu. Amen. Et cette femme est partie en colère en disant, je connais très bien les gens de la sécurité de la faculté, je vais les prévenir, je vais prévenir la police, etc. Et elle est partie comme ça en colère. Alors on s'est un petit peu reculé, on était vraiment très près, donc on s'est reculé d'aller de 3-4 mètres. Pour vous faire plaisir, et on a continué notre distribution. Puis à un moment donné, j'ai vu arriver quelqu'un de la sécurité qui sortait, et je me suis dit, bon, voilà, voilà, elle a envoyé quelqu'un de la sécurité. Mais vous savez, le Seigneur a de l'humour quand même. Et il est passé devant nous sans rien dire, et il est allé plus loin, il est allé faire une course, je pense. Et je voyais à l'intérieur du campus deux Nouveaux Testaments qui avaient été posés sur un muret. Des étudiants l'avaient accepté, puis il avait posé à l'intérieur. Et on n'osait pas rentrer, vu la réaction violente de cette dame. On sait, par exemple, qu'on n'a pas le droit de distribuer à l'intérieur du campus. Ça, c'est vrai. Et donc, j'étais là et je me retourne et je vois arriver cet homme, sécurité, qui arrive vers moi avec son... Et directement vers moi, il s'approche, il dit, ah, là, il est pour moi. Il approche et dit, monsieur, oui, est-ce que je pourrais en avoir trois, s'il vous plaît ? Waouh. Je dis, mais bien sûr, attendez, je vous en donne celui-là déjà. Et puis, regardez, sur le petit muret à l'intérieur, vous en avez deux posés. Ce serait formidable, vous allez les chercher. Nous, on n'ose pas y aller. Comment vous n'osez pas y aller? Je dis, non, parce qu'il y a une directrice qui est sortie tout à l'heure, qui a dit qu'on n'est pas loin, et qu'elle allait voir la sécurité. Attendez, attendez. Le responsable de la sécurité de toute l'université du campus, c'est moi. Et donc Dieu s'est servi du responsable de la sécurité du campus pour aller ramasser les deux Nouveaux Testaments qui étaient posés sur le muret. Et il s'est chargé lui-même de les distribuer à l'intérieur de l'université. Je remercie le Seigneur parce que nous avons tant de résultats qui nous arrivent, même après 10 ans, même après 15 ans, même après 20 ans, même après 30 ans. Et je vous dirai tout à l'heure un autre témoignage qui concerne un homme qui a reçu son Nouveau Testament il y avait des années et des années. Les Gédéons donc ont du mal à aller dans les prisons aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait y aller, mais après, c'est en faisant des bêtises, mais après, on ne peut plus sortir. Voilà, donc, sinon, voilà, comme on essaye d'être intègre, d'être droit, donc on confie les Écritures aux aumôniers qui distribuent en notre nom le Nouveau Testament. Nous faisons pareil pour les prisons. Pour l'armée. Voilà, l'armée, nous confions. Et dernièrement, on a imprimé un petit Nouveau Testament qui est comme celui-là. Alors déjà, je peux vous le dire, il n'est pas en vente. OK ? Voilà. Seul celui qui est militaire ici peut en demander un exemplaire parce que c'est pour la destination des militaires. Un Xavier, voilà. Et Xavier connaît bien d'ailleurs Olivier Bourrel qui nous a raconté ce témoignage. On lui a confié des écritures comme ça. Il est parti au Mali. Et là, dans cette région du Mali, il était dans un camp bien sécurisé. Et il avait toujours sur lui son arme à lui, c'était ça. Et à un moment donné, il est parti et il a été avec un convoi blindé qui traversait une région du Mali extrêmement périlleuse. Dans cette région, il y avait eu des morts, il y avait eu des attentats, il y avait eu des blessés. Et tous ceux qui formaient ce convoi, jeunes, très jeunes, étaient très tendus, très nerveux. Et il se retrouvait, même lui était obligé de prendre un fusil, mais ça c'était sa véritable arme. Et puis ils sont arrivés à un moment donné, c'est le soir, il fallait faire un bivouac et ils ont mis les camions en carré comme ça. Les camions en carré, vous voyez, vous imaginez, camions blindés en carré avec des mitrailleuses aux quatre coins et au milieu, ils mettent leur lit de camp avec la moustiquaire. N'est-ce pas, il y a personne qui font la garde et puis les autres se mettent à l'intérieur, protégés là de l'extérieur. Et voici qu'Olivier se retrouve donc allongé sur son lit, sous sa moustiquaire, et eh bien, il ouvre son petit Nouveau Testament comme ça pour le lire. Et ils ont un casque et sur ce casque, il y a plusieurs lumières, dont une lumière qui est rouge. Paf. Et cette lumière rouge, on arrive à lire avec et on ne la voit pas de loin. Elle est faite exprès pour ça. Pour lire les cartes, pour moi. Et donc Olivier commence à lire son Nouveau Testament et il entend quelqu'un qui s'approche. Il dit « Pasteur, pasteur !» Ah, c'était Jonas. Ah, c'est un jeune qu'il connaissait bien. Il avait déjà commencé une démarche spirituelle avec lui. Et ce jeune lui dit « Vous lisez quoi, pasteur ?» Il dit « Ben, c'est l'Évangile. Ah, je peux en avoir un ?» Mais bien sûr, il avait tout le petit paquet là à côté de lui et il lui a donné un Nouveau Testament. Et voici que Jonas se retrouve dans son lit et allume sa petite loupiote rouge et commence à lire le Nouveau Testament. Et sur le camp, là, il y avait deux moustiquaires allumés rouges. Mais au bout de quelques instants ou quelques minutes, on a entendu une voix qui disait « Jonas, Jonas, oui, tu lis quoi? Tu lis quoi? Va voir le pasteur !» Et un autre jeune s'est levé militaire et est allé voir le pasteur qui lui a dit « Tiens, prends. » Et une troisième lumière s'est allumée, puis une quatrième, puis une cinquième. Et enfin, un par un, tous les militaires qui étaient couchés se sont levés pour lire la parole de Dieu. Et ils ont allumé leur petite lumière. Qui peut dire l'impact de la parole de Dieu dans une nuit au Mali, au milieu de cette hostilité et de ce danger? Seul Dieu le sait. Mais déjà, je suis heureux de savoir que dans ce camp au Mali, chacun put lire la parole de Dieu au moment où il en avait le plus besoin, où il était peut-être le plus réceptif pour recevoir la parole de Dieu. Depuis toujours, les Gédéons placent le Nouveau Testament dans les autels. Vous connaissez peut-être, vous avez vu déjà sur les tables, dans les autels, dans chaque chambre, lorsque l'autel l'accepte. D'ailleurs, si l'autel ne l'accepte pas, ça serait bien que vous le demandiez vous aussi à l'autel. Mais acceptez, s'il vous plaît, les Nouveaux Testaments. Et ça, c'est une autre sphère qui est de l'origine. Le temps me manque parce que j'aimerais aussi vous parler d'une dernière sphère qui concerne nos épouses. Alors, je demandais à Marianne de venir jusqu'ici parce que quand je suis parti, elle est partie avec moi. Amen. Et quand vous avez prié, vous avez prié avec moi. Et cela fait longtemps qu'elle représente les épouses au niveau des Gédéons et qu'elle visite les camps. Et au départ, je l'accompagnais et maintenant, c'est elle qui m'accompagne. Et ensemble, nous voulons encourager et exhorter. Elle va vous donner donc, elle vous expliquer la place de nos épouses à nos côtés, le travail qu'elles font et le soutien qu'elles sont pour un groupe. Et je la remercie. Elle va vous donner aussi quelques témoignages. Que Dieu nous bénisse.
Bonjour. Un jour que Vincent lisait la Bible, il s'est tourné vers moi et il m'a dit « Mais ce verset, il est vraiment pour les épouses des Gédéons. » Et j'en ai fait le leitmotiv au niveau de la France. C'est Psaume 68, verset 12. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. C'est un travail de couple. Et comme dans le couple, comme le Seigneur l'a voulu, il y a des différences. Le Seigneur a créé un homme et une femme. Chacun avec ses particularités, chacun avec ses forces, chacun avec ses faiblesses, chacun avec ses compétences. Lorsque l'association a été créée, immédiatement, les Gédéons ont demandé à leurs épouses de s'associer à eux dans la prière. Parce qu'aller distribuer la parole de Dieu, ce n'est pas facile, c'est un combat. Un jour, alors qu'on était dans un... On était aux fiançailles de Pierre-Yves. Et il y a une dame qui m'a dit « Vous faites toujours partie du club des Gédéons ?» J'ai dit « Du club ? Mais on est à l'armée, madame. On est à l'armée. On est en guerre contre l'ennemi. On est dans les tranchées quand on sort ensemble. Godéric peut vous le dire. On est en train de distribuer dans les cabinets médicaux de Marseille. Alors pourquoi les cabinets médicaux ? Parce que justement, c'est notre particularité. Parce que les Gédéons ont ensuite confié à leurs épouses, parce que c'était des infirmières chrétiennes qui l'avaient demandé, de distribuer ce beau Nouveau Testament blanc, qui est spécialement édité pour les blouses blanches. Et donc, nous avions un projet un peu fou lorsqu'on s'est tout engagé, là, dans cette église. Il y avait aussi la maman de Françoise, Albert Rennes. On a commencé petit, on a distribué à Martigues, on a distribué à Port-de-Bouc, à Istres, voilà, à Miramas, tout ça. Puis on a eu le projet de distribuer à Aix-en-Provence et on est parti distribuer dans tous les cabinets médicaux et paramédicaux d'Aix-en-Provence. Puis ça ne nous a pas suffi, on est parti à Marseille. On a mis 3 ans et demi pour couvrir la ville de Marseille. Et un jour que j'étais en distribution avec Godéric, chauffeur Christian, c'est bien agréable, l'angoisse m'a pris. C'est pour ça que je vous parle de guerre. L'angoisse m'a pris, mais c'était tellement fort que je me suis dit, je vais me faire un infarctus, c'est pas possible. Parce que chaque fois que vous tapez une porte, vous savez pas ce qui vous attend. Soit on vous accueille bien, soit on a le sourire, soit surtout à Marseille, on a vu des cabinets médicaux qui ne devraient pas porter ce nom-là. Soit c'est sombre, soit au contraire c'est éclairé, il y avait toute une salle d'attente qui vous regarde. Vous voyez, il y a toujours une pression. Et ce jour-là, j'ai dit, je suis pas faite pour ça, je vais arrêter. Simplement, le matin, avant de partir d'Istres, j'avais fait une prière et j'avais dit « Seigneur, montre-moi quelqu'un qui a besoin de toi, que je serve à quelque chose en faisant ça. » Et puis, on arrivait à la fin de nos distributions et je dis à Godéric, moi, j'en peux plus, Godéric. Elle me dit « Allez, Marianne, c'est bientôt fini. » Il nous restait 2 adresses, elle part d'un côté d'un bâtiment et moi de l'autre côté. Je me mets devant l'adresse, je regarde, c'est un nom juif. Et je sais que les médecins juifs, souvent on est bien accueillis, mais ils nous disent « Ma petite dame, je suis de l'Ancien Testament, pas du Nouveau, passez votre route. » Et donc, je rentre dans ce cabinet médical et là, je vous assure, j'allais pas très bien. Personne dans la salle d'attente, je m'assois. Et tout à coup, il arrive, alors c'était un dentiste, il arrive un dentiste, un homme très costaud, très imposant, avec même un cigare à la bouche. Il me dit, allez, ma petite dame, c'est à vous. Oh là là, j'ai pas rendez-vous. Tu veux pas marcher une dent quand même? Et donc là, il me dit, alors qu'est-ce que vous êtes venu nous vendre aujourd'hui? On nous prend pour des visiteuses médicales, hein, souvent, on a nos sacs chargés de bibles, etc. Alors je dis, non, je viens rien vous vendre, je viens vous offrir un Nouveau Testament. Oh, le Nouveau Testament, vous avez vu mon nom, je suis de l'Ancien. Mais j'ai un ami pasteur protestant qui m'a offert une grande Bible. Alors ça aussi, ça, les gens pensent que le salut dépend de la taille de la Bible qu'ils possèdent. Je vous assure, hein, je ne sais pas, quelque chose avec depuis plus de 30 ans, on en entend des choses. Et donc, vous savez, j'attendais qu'il finisse et que je parte. Et là, tout à coup, il me dit, mais quand même, il y a quelqu'un qui va être drôlement content que vous soyez là ce matin. Alors là, je ne vous dis pas, mes yeux comme se sont ouverts. Et je regarde et il me dit, c'est mon assistante là. Et elle était comme si elle était derrière le pilier qui est à côté d'Anne, là-bas. Elle était derrière un pilier avec des classeurs, etc. Je ne l'avais pas vue. Et il me dit, figurez-vous qu'elle est arrivée ce matin en me disant, docteur, vous ne savez pas où je pourrais trouver une Bible. Là, mes yeux sont remplis de larmes. Je me suis tournée vers elle, je suis allée la rencontrer. Et je dis, l'amour de Dieu, pour vous, m'a envoyée ici ce matin. Et j'avais fait cette prière. J'ai fait une heure de route. Et c'était pour vous. C'est l'amour de Dieu. Et elle m'a dit merci. J'ai vraiment besoin de lire la Bible. Et cet amour de Dieu, c'était pour la sauver. Oui, je ne pourrais pas vous parler de ce qui s'est passé en France pendant le confinement. J'irai très très vite. Il y a une sœur, Nathalie, qui pendant le confinement est allée visiter une de ses voisines, qui est l'épouse d'un Gédéon, très âgée, atteinte d'un cancer. Et elle lui a dit, on prie avec mon mari, on prie avec Eddie. Donc c'est Nathalie qui dit à cette dame âgée, on prie avec Eddie pour que le Seigneur nous envoie ce confinement, cette détresse, hein, vous situez, hein, que le Seigneur nous permette de faire quelque chose pour ces personnes-là. Vous rappelez qu'on applaudissait tout le monde, toutes les blouses blanches, hein, voilà. Donc c'est vraiment cette période-là. Et comment tu fais, Geneviève ? Geneviève était connue dans toute Nice et les alentours comme étant la dame qui offrait des bibles aux médecins, aux professions médicales, etc. Elle lui dit, comment tu fais ? Et Geneviève dit, mais tu sais, c'est simple. Tu leur dis, je viens vous faire un cadeau. Et c'est vraiment, toutes les épouses et auxiliaires qui sont là, elles savent que c'est la façon dont on aborde les blouses blanches. Pendant qu'elle dit ça, Nathalie a eu une inspiration divine, je dirais. Elle a dit, je ne peux plus aller dans les cabinets médicaux. Hein, vous vous souvenez, il fallait avoir rendez-vous, attendre dehors, etc. Mais elle dit, je peux quand même aller offrir aux pharmaciens. Et là, tout le monde avait accès. Et le mot cadeau a fait tilt dans son esprit. Elle a juste eu l'idée de mettre un ruban autour de chaque Nouveau Testament. Et elle a, le 30 novembre, elle a eu l'idée. Elle est partie avec un sac. Elle ne l'avait jamais fait. Elle a enrobé, entouré les Nouveaux Testaments d'un ruban. Elle est rentrée dans une première pharmacie. Elle leur a dit, on veut vous remercier. Je fais partie d'une association chrétienne. On veut vous remercier pour ce que vous faites. Parce qu'on sait que c'est dur. Et elle a donné un Nouveau Testament, deux, trois, quatre. Et puis elle a passé comme ça quelques heures. Et elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, Marianne, c'est extraordinaire. Les gens sont vraiment touchés. Alors, étant coordinatrice nationale, j'ai des groupes WhatsApp avec tous les camps, tous les groupes Gédéon de France et des Caraïbes. Et je lui ai dit, envoie-moi une photo. Elle m'a envoyé la photo d'un Nouveau Testament en rubané. Et je l'ai envoyé dans tous les groupes de France. Et j'ai dit, les filles, il faut y aller. Il faut y aller. La porte est ouverte. Elle est fermée dans les cabinets médicaux, mais elle est ouverte chez les pharmacies. Aujourd'hui, 9000 Nouveaux Testaments ont été donnés dans les pharmacies. Voilà ce que peut faire l'onction de Dieu. Quand quelqu'un a prié auparavant et qui s'est mis à disposition de l'Éternel, voilà ce qui peut se faire. Et je suis certaine que parmi ces pharmaciens, ces aides, etc., il y a des personnes qui ont rencontré le Seigneur. Je vous donnerai un dernier témoignage. Suite à ça, j'ai une amie qui s'appelle Monique, qui habite à Mulhouse. Alors évidemment, vous vous doutez, je passe beaucoup de temps dans la communication, mais c'est très important, WhatsApp. C'est pour ça que je ris avec mon pasteur. C'est très important parce qu'au fur et à mesure qu'il y avait des distributions, je donnais des nouvelles. Je disais, il faut prier toute la France, vous priez pour les filles de Lille qui vont distribuer cet après-midi. Puis après, je disais ce qui s'était passé. Vous priez pour les filles de Marseille qui vont... Voilà. Et donc, petit à petit, Monique, elle s'est dit, il faut que j'y aille. Monique, je vous la situe, elle a un gros problème d'épaule. Elle est venue ici parmi nous. C'est une amie de couleur, je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle est venue... en septembre ou octobre, elle était en cure pas loin avec son mari, ils sont guyanais tous les deux. Elle a été opérée de l'épaule, elle a un gros problème à l'épaule. Et elle a enrôlé avec elle son amie Edwige, qui elle a un gros problème de genou. Et je me les imagine, j'ai pas de photos, mais je les imagine clopin, aller distribuer. Une qui arrive pas à porter le sac, l'autre qui arrive pas à marcher. Donc... je vous situe toujours, hein, on est en fin 2021, fin 2020, on est peut-être en début 2021. Elle rentre dans une pharmacie, Edwige dit toujours à Monique, c'est toi qui parles. Alors Monique parle, elle propose le Nouveau Testament, voilà, on vient vous faire un cadeau à quelqu'un, on ne sait jamais si c'est la pharmacienne, si c'est, on ne sait pas, hein, à qui on s'adresse. Et la dame dit, on ne veut pas de ça ici, non, non. Bon, elles repartent toutes les deux. Quand elle sort de la pharmacie, qu'est-ce qu'elle voit ? Une tente, les fameuses tentes Covid, pour faire les tests, etc. Et donc Monique dit à Edwige, allez, on va à la tente, c'est des blouses blanches, évidemment. Elles vont à la tente, il y avait effectivement une blouse blanche, mais alors avec la charlotte blanche, les chaussons, les gants, enfin entièrement, vous savez, à la combinaison, hein, on est vraiment au tout début de la pandémie. Monique lui propose le Nouveau Testament, elle dit, oh là là, comme je vous remercie, comme ça me fait plaisir. Écoutez, je ne peux pas le prendre, mais allez à la pharmacie et dites-leur de me le garder. Edwige, tu ne vas pas y aller quand même. Et Monique de dire, écoute, on y va au nom de cette personne, c'est tout, je ne vais pas reproposer pour tout le monde. Elles rentrent ensemble à nouveau dans la pharmacie. La dame qui avait refusé si énergiquement n'était pas là. Elle devait être dans l'arrière-boutique. Donc Monique s'adresse à la première personne qu'elle voit. Elle lui dit, voilà, excusez-moi, je suis déjà venue tout à l'heure, mais je viens juste offrir, je viens juste vous demander de garder pour la dame de la tente Covid. Et là, cette petite jeune fille de dire, je peux en avoir un moi aussi. Tout à l'heure, quand elle vous l'a refusé, j'avais tellement envie de l'avoir. Et la collègue d'à côté, et moi aussi, je peux en avoir un. Et là, je dis... On a un Dieu qui est tout puissant. On a un Dieu qui cherche qui il va sauver et qui emploie des moyens qu'on ne peut pas imaginer. Alors je vous encourage, vous aussi, à offrir la parole de Dieu. Parce que tout le monde en a besoin. Tout le monde, même ceux qui vous disent qu'ils ne la veulent pas ou qu'ils ne la liront pas. Souvent, on insiste en disant, peut-être aujourd'hui vous n'avez pas envie de la lire, mais peut-être que demain vous en aurez besoin.
Amen. Voilà. Vous pouvez nous suivre au plus près, prier pour nous. J'ai laissé au fond un petit dépliant qui est les Amis des Gédéons, c'est-à-dire faire partie de cette amicale qui va recevoir au moins une fois tous les 3 mois une lettre de nouvelles, de prières, et puis nous soutenir, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire soit par la poste, soit sur le site des Amis des Gédéons. Vous avez ça sur la table de publication. Voilà. J'aimerais maintenant ouvrir la parole de Dieu et je laisse un petit peu de côté, mais pas complètement, le ministère des Gédéons pour rentrer dans le ministère de la parole. Et c'est dans l'évangile de Jean, vous savez, ce passage chapitre 4 qui nous parle de la Samaritaine. C'est un exemple pour nous, la Samaritaine, de l'évangélisation par la conversation. Quand on regarde quelqu'un, on peut commencer à converser avec lui, lui parler et l'évangéliser. Et après, on offre la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le passage qui concerne cette Samaritaine dont j'aimerais vous parler, mais c'est ce qui se passait juste après. Rappelle que les disciples étaient partis dans cette ville de Samarie pour acheter à manger à Jésus. Et que quand ils sont revenus, ils l'ont regardé avec cette femme samaritaine qui lui parlait. Donc, ils ont été très étonnés car à l'époque, ils n'avaient pas de relation les uns avec les autres. Du racisme sévère. Et pendant ce temps, donc le verset 31 du chapitre 4 de l'évangile de Jean, il est écrit, pendant ce temps, les disciples pressaient Jésus de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? C'est souvent en décalage entre les paroles de Jésus et notre façon de comprendre les choses. Nicodème ne savait pas comment rentrer dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau. Et là, les disciples ne comprenaient pas lorsque Jésus parlait d'une autre nourriture. Et il leur explique. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez le champ, les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Ce matin, je me réjouis avec vous de la moisson, de ce que Dieu a fait à travers sa parole, de ces hommes, de ces femmes qui sont allés jusqu'à la fin de leur évangile et puis qui se sont décidés pour Christ, qui ont signé le plan du salut que Dieu a de toute éternité pour leur vie. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Si quelqu'un peut dire « j'ai mon œuvre à accomplir », c'est bien Jésus. Parce que lui avait vraiment quelque chose à accomplir. Comparé à ce que nous pouvons accomplir de notre côté, on pourrait dire qu'il avait une œuvre particulière, unique. C'était son œuvre, c'était à lui de le faire. Personne ne pouvait le remplacer. Qui que vous soyez, vous pouvez être remplacé. Je peux être remplacé. Tout le monde sera remplacé, sauf Christ. Il est remplaçable. Mais écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que ce n'est pas son œuvre, mais c'est l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Je veux accomplir son œuvre. Et je trouve ça magnifique. Magnifique parce que cela nous recentre dans notre vie. Si Jésus pouvait dire « je vais accomplir son œuvre », à combien plus forte raison devons-nous nous questionner nous-mêmes, mais qu'est-ce que nous accomplissons dans notre vie ? Qu'est-ce que c'est notre vie ? Mais qui es-tu devant le Seigneur ? Qu'est-ce que tu fais ? L'œuvre de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que cette façon de penser est dans nos cœurs ? Est-ce que parfois nous pensons à la vie que Dieu veut nous faire vivre ? À se dire, mais en fait, il m'envoie, je suis là sur terre, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Est-ce que parfois nous pensons à la volonté de Dieu pour notre vie ? Est-ce que parfois nous pensons à accomplir son œuvre ? Est-ce que ça fait partie de notre réflexion ? Ça devrait. Tout chrétien devrait se dire à un moment donné, mais pourquoi je suis là ? Mais qu'est-ce que le Seigneur veut faire de ma vie ? Mais qui est-ce que je suis devant les yeux du Seigneur ? Et puis, après avoir parlé de ça, Jésus enclenche tout de suite sur la moisson. Vous avez remarqué ? Tout de suite, il parle de la moisson. Il parle des semences, il parle de la moisson. Il parle de porter du fruit. En fait, répondre à la question de tout à l'heure, c'est quelle place dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies, la volonté de Dieu a-t-elle ? Quelle place Dieu a-t-il ? Et ça, c'est important. Les Gédéons, pour revenir à l'association, se disent que la meilleure façon de servir le Seigneur, c'est de faire connaître sa parole. Et je crois que si vous avez de la foi dans la parole de Dieu, la foi dans ce que Dieu a écrit, a inspiré, eh bien, vous êtes sur le chemin de faire l'œuvre de Dieu. Vous êtes sur le chemin de faire l'œuvre de Dieu. Car cette parole, elle est tout à fait particulière. Ce livre est particulier, pas tellement parce que c'est le plus écrit, le plus lu, enfin tout ce que le plus imprimé. Il a été le premier livre imprimé dans le monde. Hein. Gutenberg a imprimé la Bible. Et donc c'est le plus vieux livre imprimé du monde, c'est la Bible. Mais parce qu'il est la parole de Dieu. Surtout parce qu'il est la parole de Dieu. Et Jésus va lier son œuvre à la moisson. L'œuvre de Dieu à la moisson. Et à la volonté de Dieu, c'est sa vie, mais c'est aussi sa mort, et c'est en vue d'une grande moisson. Parmi les champs de blé qui blanchissaient, que Jésus voyait, il dit « Levez les yeux, voyez, il y avait nous. » Amen. Il y avait nous. Il avait en vue ces champs de blé qui n'existaient pas encore, mais qu'il voyait par la foi, parce qu'il savait ce qu'il allait accomplir, comme des champs de blé qui blanchissent. C'est-à-dire, pour devenir blanc, un champ de blé, il faut qu'il ait bien poussé. Il faut qu'il soit, que l'épi soit bien formé. Parmi les champs de blé qui déjà blanchissent, il y a moi. Une petite tige qui pousse. Quelquefois, elle est même un peu cassée. Ou beaucoup. Mais le Seigneur va la remettre droite afin qu'elle continue à pousser. Il y a moi. Et l'assistance, par l'assistance de Dieu, je suis appelé à porter du fruit. À porter du fruit. Il parle de celui qui sème. Et qu'est-ce qu'on sème ? Dans les paraboles de Jésus, qu'est-ce que la semence ? C'est des bonnes œuvres ? Non, ce n'est pas ça. Hein ? Vous l'avez, la semence, c'est la parole de Dieu. Je vais vous expliquer la puissance de la semence avec un témoignage que j'ai reçu, qui nous vient des Gédéons encore. Je reçois en 2020, en janvier 2020, un message d'un homme, et je vais vous lire ce message. « Je ne retrouve plus mon précieux petit livre bleu que vous m'aviez offert il y a longtemps. Pourriez-vous me dire où m'en en procurer à Paris, si éventuellement vous m'en envoyez un par la poste et je vous payerai ?» Et c'était signé Gilles. « Je vous rembourserai tous les frais. » Bon, on prend contact avec cet homme. Il nous laisse son adresse. On a son nom. Je recherche un petit peu sur Internet. Je m'aperçois que cet homme est un photographe assez connu dans cette ville de Paris. Bon, on lui envoie le Nouveau Testament et par retour de courrier, il nous donne ses renseignements. Je tiens à vous remercier infiniment pour l'envoi de ce nouvel exemplaire du Nouveau Testament qui restera auprès de moi. Je me souviendrai toujours du jour où, à la sortie du collège, votre association distribua le livre aux élèves, mais aussi à nos professeurs et au personnel du collège. C'était à Nice en 1986, c'est-à-dire 34 ans plus tôt. Et il me dit « je me souviendrai toujours ». Effectivement, s'il s'en souvient au bout de 34 ans, il y a de fortes chances pour que ça lui reste encore. Je n'étais pas croyant jusqu'à ce que je lise ce don. Il est au collège, hein, cet ami. Il y avait sur la couverture intérieure une place dédiée pour écrire la date où l'on était touché par la foi. Et c'est cette année-là que j'inscrivis mon nom et la date sur mon précieux petit livre bleu. Ce plan du salut, eh bien, nous explique que Dieu nous aime, avec Jean 3,16, dit que tout le monde est pécheur, mais que le remède de Dieu au péché, c'est Jésus-Christ, et que maintenant tous peuvent être sauvés. Et on invite ma décision de recevoir Jésus-Christ comme un sauveur. Je reconnais devant Dieu que je suis pécheur. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour moi, qu'il est ressuscité pour ma justification. Je le reçois maintenant et je le reconnais pour mon sauveur personnel, signé Gilles, 1986. Il a perdu ce petit bleu. Mais il en voulait à nouveau. Et voici ce qu'il nous dit. Depuis, beaucoup de doutes et de scepticisme m'ont assailli, mais le souvenir, la générosité de cette année-là, qui est restée la même aujourd'hui, puisque vous m'en ferez en nouveau un autre exemplaire, et le souvenir de la parole foudroyante que j'avais trouvée dans le Nouveau Testament m'ont invité à vous demander cet exemplaire pour le présent et pour l'avenir. Signé Gilles, je vous remercie encore. Quand on a regardé de plus près, parce qu'on s'est dit, cet homme, on a regardé de plus près, vous savez quel était le premier métier de Gilles ? Il était professeur de philosophie. C'est-à-dire que cet homme, alors qu'il était un petit gamin, a lu la parole foudroyante dans ces termes-là, et ça a laissé une marque que l'étude approfondie de tous les grands textes des philosophes, tous les grands textes humains n'ont pu effacer. Et 34 ans après, ce qui se rappelle, c'est pas le philosophe grec, turc ou autre, ce qu'il se rappelle, c'est de la parole de Dieu avait touché son cœur et qu'un jour, il avait mis son nom et signé à la date de 1986 qu'il rencontrait le Seigneur. Et ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Ça, c'est la puissance de la semence. La semence, c'est la parole de Dieu. Une fois qu'elle est semée, nous, on peut avoir oublié que quelqu'un a signé. Lui, il peut même avoir oublié pendant un temps qu'il a signé. Mais Dieu n'oublie jamais qu'un jour, ce gamin s'est approché de lui. Et il va reparler à son cœur. Rappelle-toi, en 86, tu m'as donné ta vie. Et cet homme Gilles, qui a quitté maintenant l'éducation nationale pour être photographe d'art, eh bien cet homme s'est reparlé. Cet homme a... Cet homme a comparé et il a trouvé l'incomparable, la parole de Dieu. Ça me touche parce que c'est un témoignage récent qui prouve l'énorme puissance de la parole de Dieu. Si l'on sème quelque chose, le principe biblique, eh bien, c'est que l'on récolte ce qu'on a semé. Rappelez dans Osée 8, verset 27, il est dit... Au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'était tellement vrai que c'en est devenu un proverbe aujourd'hui. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Et il ajoute, ils n'auront pas un seul épi de blé. Amen. Pas un seul épi de blé. Et plus loin, deux chapitres plus loin, Dieu nous invite. Dieu nous parle. Il nous donne un ordre. Chapitre 10, verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, et il nous invite à nous défricher. Défrichez-vous un champ nouveau. Et il ajoute, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Ces mots « jusqu'à ce qu'il vienne » résonnent comme des mots du Nouveau Testament. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Il vient bientôt. Amen. Il vient bientôt. Et là, nous avons ces étrangement, comment dire, vrai pour nous aujourd'hui. Vrai. Une parole de Dieu dite par un prophète il y a 8 siècles avant Jésus-Christ, il nous dit « semez aujourd'hui. » Amen. Alors, ce qui manque aujourd'hui dans l'Église, et je vous laisse avec ça, c'est à un moment donné, il faut qu'on soit devant nos responsabilités. D'accord ? C'est bien de recevoir toujours, de demander des guérisons, on en a besoin, mais à un moment donné, on est devant nos responsabilités, on est devant Dieu, il y a des moments pour recevoir, il y a des moments pour réfléchir, nous dit la parole de Dieu. Je vais vous dire ce qui manque le plus aujourd'hui, après le Covid, après tout ce qu'on a connu, c'est une église, ce sont des hommes et des femmes qui s'engagent. On ne s'engage plus. On ne s'engage plus pour Dieu. D'ailleurs, on ne s'engage plus pour rien. Mais ça, c'est autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est nous engager pour Dieu. Et de moins en moins de personnes s'engagent pour Dieu. Et ça manque terriblement. Ce qui manque terriblement, c'est l'engagement à faire et accomplir l'œuvre de Dieu. Que ta volonté vienne sur la terre comme au ciel. On l'a appris par cœur quand j'étais gamin comme ça, alors que j'avais jamais, que je ne connaissais pas Dieu ni Jésus. Je connaissais déjà ces paroles comme des paroles de rengaine que je répétais. Mais ce qui manque, c'est de dire, moi, je m'engage. Je m'engage à faire ta volonté. Je m'engage à travailler avec mon Église. Je m'engage à te servir dans tel et tel domaine. Je m'engage. Et ça manque d'engagement, manque de fond. On est bien à l'Église. On passe un beau moment, et merci Seigneur. Mais aussi, le Seigneur nous demande de nous engager. Jésus parlait, tout le monde écoutait, c'était formidable. Puis il se tournait vers quelqu'un, lui dit, toi, viens, suis-moi. Et puis il passait à l'entrée d'une ville, il faisait un miracle. Tout le monde, alléluia, et puis il se regardait, la personne qui était à son travail, en train de récolter l'argent. Il dit, Lévi, suis-moi. Et ce sont des gens qui se sont engagés. Et l'histoire nous dit qu'ils se sont engagés jusqu'au bout. Amen. À un moment donné, je pense qu'il faut nous engager dans la semence, nous engager dans le témoignage, nous engager aussi dans toute l'œuvre de Dieu. Rappelez-vous ce qu'a dit Jésus. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Chacun sa tâche, chacun son rôle, mais il faut un engagement. Que Dieu nous bénisse. On va prier, s'il vous plaît.